Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Gloire à Dieu, merci à Maggie pour ce chant magnifique. C'est comme si vous avez déjà reçu une prédication ce matin. Combien avaient déjà venu d'entendre un message de la part de Dieu? Mais je vais vous en donner une autre quand même dans un instant. C'est une joie pour moi de vous accueillir. On a vu plusieurs nouveaux qui sont là, mais aussi des amis pendant l'été. Il y a des gens qui nous visitent. Et puis, c'est une joie d'avoir le pasteur Daniel Gerbard qui est là. C'est un père dans la foi que nous aimons beaucoup, qui est un homme que j'aime énormément. Il vient périodiquement. Il fait continuer à faire le ministère après de nombreuses années comme missionnaire et a fait le ministère à différents endroits du monde. Il vient pour toutes sortes de raisons au Québec, mais cet été, il vient parce que sa petite-fille se marie. Il vient pour un mariage dans quelques semaines. Et alors qu'on arrive à l'été et que vous allez, plusieurs d'entre vous, aller en vacances, on se cherche souvent des lectures pendant les vacances. Je veux vous recommander ce livre qui est un livre témoignage extrêmement touchant sur le ministère de Pasteur Daniel, son épouse Ginette, mais aussi plusieurs générations à travers le monde. Ils ont été missionnaires à différents endroits, au Maroc, au Gabon, en Guadeloupe, jusqu'à Chicoutimi, de l'Équateur au Grand Nord. Et c'est un livre qui est disponible. Il y a une table spéciale à l'arrière. Ça se lit facilement, mais c'est extrêmement édifiant. Beaucoup de témoignages de l'action surnaturelle de Dieu, de la fidélité de Dieu, de guérison et de comment Dieu est fidèle pour se servir de nous. Alors, je vous encourage à prendre ce livre à l'arrière en sortant. Je sais que vous allez être béni pendant l'été en lisant ce livre. Et je vais l'offrir ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui c'était son anniversaire cette semaine? Si c'était votre fête cette semaine, avez-vous votre main? Il y en a plusieurs. Pour le vrai? Est-ce que c'est vrai devant Dieu et tous ses anges? Alors, qui dit que c'est sa fête, c'était sa fête cette semaine? Saverio, c'est ta fête? Aujourd'hui même, c'est ta fête aujourd'hui même. Mylène, sa fête aujourd'hui même. Alors, Mylène, je te le donne en cadeau. Et tous ceux... Levez votre main ceux que c'était vraiment votre fête cette semaine. Levez votre main ceux qui étaient votre anniversaire. Tous ceux que c'est votre anniversaire cette semaine, allez à la table, prenez le livre, l'Église va l'acheter pour vous et on va vous l'offrir. Alors, allez à la table et dites c'était ma fête et je ne veux pas voir 1000 personnes aller à la table et dire c'était ma fête ce dimanche. Nous sommes, je vous invite à tourner avec moi dans la parole de Dieu à l'Évangile de Luc, chapitre 22. Et ce matin, c'est la 8e et dernière partie de la série « N'aie pas peur, comment vaincre les craintes, les angoisses et les phobies modernes ». Et nous voulons vous souhaiter la bienvenue à vous qui êtes ici, mais aussi à tous ceux qui écoutent les messages. Il y a plus entre 170 000 et 200 000 personnes qui téléchargent les messages sur les différents sites chrétiens de l'Église, du Top Chrétien, mais aussi, et qui écoutent aussi les différentes émissions de radio. Et c'est vraiment touchant. Le courrier devient de plus en plus imposant et de plus en plus émouvant parce qu'il y a énormément de gens qui nous écrivent et les messages ont tellement de signification pour eux. Alors, nous les saluons ce matin. Et dans cette série de messages sur comment vaincre les peurs et les craintes des angoisses modernes, nous avons fait plusieurs étapes ensemble. Nous avons vu ensemble comment vaincre la peur et les phobies. La peur de la récession, les peurs matérielles, comment vaincre la peur, les inquiétudes, les angoisses ou les craintes pour nos enfants, pour leur avenir. Le dimanche de la fête des pères, nous avons vu ensemble comment vaincre la peur d'être un mauvais père, la peur lorsque les tragédies, la peur de l'avenir. Comment vivre la peur de la solitude, de l'abandon, la peur du rejet, comment la vaincre. Comment vaincre la peur des églises, la peur de Dieu, ceux qui ont peur de s'approcher de Dieu, la peur de s'engager. La peur de faire confiance. Comment vaincre la peur de s'engager, de faire confiance? Et ce matin, nous allons conclure cette série avec un message qui s'intitule « Comment vaincre la peur de l'échec? » Comment vaincre l'échec ou la peur de l'échec? Et je dois dire un mot de repentance en commençant ce message. Lorsque j'avais annoncé le message « Comment vaincre la peur de l'échec », je vous avais dit qu'il était pour y avoir une poutre de gymnastique ici. Puis j'étais pour prêcher une partie du message sur la poutre de gymnastique et la communion qui a été prise ce matin. Différentes raisons logistiques. Dites à la personne près de vous, la vraie raison, c'est qu'il avait peur, il avait besoin de se pratiquer. Dites ça à la personne près de vous. La poutre va être remise. La réalité, c'est aussi qu'il y a toute une idée qui m'est venue, avec un message illustré que je pense qu'on va faire pour l'évangélisation. J'ai eu des clips qui vont avec ça et tout ça. Je crois que ça va être un message illustré. Et avant que vous me lanciez, s'il y en a qui ont de la misère à me pardonner ce matin, si vous étiez venu seulement pour la poutre, je vous demande d'enlever la poutre dans votre propre œil et de ne pas voir... la peur dans la mienne, et je crois que vous allez être bénis par la prédication quand même ce matin, alors qu'on regarde ensemble à comment vaincre la peur de l'échec. Et on va lire notre texte ensemble et on va prendre comme modèle l'apôtre Pierre. Et c'est un message que je prie depuis plusieurs semaines et je prie dans les quelques minutes qu'on va avoir, qu'il y ait une onction qui vienne. Une onction qui est déjà ici, mais qu'elle vienne saisir les cœurs, afin qu'un grand nombre d'entre vous puissiez avoir, c'est un message de protection ce matin, que vous puissiez apprendre ce matin avec moi comment protéger votre marche avec Dieu, votre témoignage avec Dieu, et aussi, pour vous qui êtes ici, pour ceux qui vont entendre le message par la radio ou l'Internet, ou peut-être des gens que vous allez voir pendant l'été, à qui vous allez remettre le CD, je prie et j'ai foi qu'un grand nombre de personnes qui avaient connu un échec spirituel et qui était maintenant dans la peur, qui était maintenant loin ou qui était maintenant même rétrograde à cause de cet échec, je déclare par la foi que ce message, par la puissance du Saint-Esprit, peut et va libérer des gens de la peur de leur échec et va les faire, leur permettre d'entrer à nouveau dans le chemin vers Dieu. Et aussi, je déclare par la foi que ce message va protéger des familles, protéger des couples, protéger des vies chrétiennes, protéger des appels, alors que nous allons apprendre comment vaincre la peur de l'échec et comment protéger nos vies contre l'échec. Et nous allons regarder ensemble à Luc chapitre 22, alors que Jésus s'adresse à ses disciples, mais à Pierre en particulier, avec ces mots au verset 29. Le texte apparaît à l'écran. Mais Luc 22, 29, Jésus dit, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Il parle ici, regardez ici un instant, il parle ici de l'héritage sur la terre. J'ai un royaume que j'ai reçu, que je vous donne pour vous sur cette terre, mais aussi un héritage éternel, une destinée sur cette terre. Et une destinée éternelle, et que chaque personne qui entend ce message ce matin, soyez saisis ce matin à la réalisation que vous n'êtes pas un accident, et que vous n'êtes pas ici juste à vivoter sur la terre pour remplir l'espace, remplir du temps, remplir une job, remplir une chaise à l'église. Il y a une destinée éternelle. Dieu a un royaume que seulement vous pouvez accomplir, et il y a un héritage pour vous sur cette terre, mais aussi un héritage qui est dans le ciel. Un héritage sur cette terre et un héritage dans le ciel. Peut-être n'y aura-t-il pas 1 200 000 personnes qui vont s'inscrire pour aller à votre funérailles, mais lorsque vous allez entrer dans le royaume, dans le ciel et entrer dans les portes du ciel, les anges du Seigneur vont vous accueillir parce que vous étiez un enfant de Dieu et vous aviez un héritage que aucun millionnaire et aucun royaume de cette terre ne peut donner, et que tous les millionnaires de l'héritage de Dieu disent amen dans ce lieu ce matin. Le Seigneur Jésus dit, il y a un héritage pour vous sur cette terre. Il y a une couronne, il y a une conquête sur cette terre éternelle. Mais il y a aussi des chutes et des combats. Il y a cette dimension d'échec qui est présente, que le Seigneur voyait. Il parle aux disciples, mais il parle à Pierre en particulier. Au verset 31, il lui dit, le Seigneur lui dit, Simon, Simon, il parle à Pierre. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, ou vous faucher comme les blés. Regardez ce sens, c'est une image que pour nous ne veut pas dire grand-chose, mais imaginez l'image des blés, imaginez l'image de la faux qui passe. Et alors que la faux passe, le blé qui s'envole et qui est fauché, et qui était là, grand et fier, et qui maintenant est fauché. Il dit, Satan avait une intention, il y a une couronne, il y a des conquêtes, mais il y a un combat, il y a des chutes, il y a des combats. Et il dit, plus spécifiquement, il dit, mais j'ai prié pour toi, il parle à Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, par parole prophétique, par parole de connaissance, par vision prophétique, le Seigneur Jésus voyait l'apôtre Pierre, le voyait trahir, le voyait renier. Il dit, quand tu seras revenu, il le voyait trahir, il le voyait renier, mais il le voyait également 50 jours plus tard, de retour de son échec, le jour de la Pentecôte, proclamant le message de Dieu. Et le Seigneur, si j'ai prié pour toi afin que tu ne défailles pas. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Mais Jésus dit Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Regardez ici un instant. Il y a une couronne et une conquête pour vous et moi. Il y a des chutes et des combats. Mais il y a toujours un chemin. Une compassion. Il y a toujours une capacité divine qui est là pour nous dans le cœur de Dieu. Et lorsqu'on parle de comment vaincre l'échec, comment vaincre la peur de l'échec, nous allons regarder à deux pensées, une ce matin et une qui va commencer avec notre prochaine série de messages. Comment vaincre la peur de l'échec spirituel à partir de la vie de Pierre? Il faut connaître les raisons de l'échec spirituel et il faut savoir comment se relever de l'échec spirituel. Il faut savoir comment se relever de l'échec spirituel va être notre prochaine série de messages. En le mois de juillet et le mois d'août cette année, nous allons avoir une nouvelle série de messages sur à la découverte des noms de Dieu. Nous allons parcourir l'Ancien Testament, nous allons voir des noms de Dieu et à chaque endroit, à chaque moment où son peuple avait le plus besoin de lui, Dieu se révélait et révélait une nouvelle facette de son nom. Alors, ne manquez pas cette série de messages qui va savoir comment se relever de l'échec spirituel, découvrir les noms de Dieu, car le premier message de la série au mois de juillet, le premier message dans les prochaines semaines va être le psaume 91, le Dieu Tout-Puissant qui est aussi un Dieu de refuge. Mais ce matin, les deux étapes pour vaincre la peur de l'échec spirituel, comment se relever de l'échec, oui, mais comment il faut connaître les raisons. Connaître les raisons de l'échec spirituel. L'apôtre Paul a dit, nous ne sommes pas ignorants de ces attaques. Après 25 ans de ministère et après 25 ans d'étude de la parole de Dieu, de prière, de recherche de Dieu, à être un berger avec des gens qui aiment Dieu, nous pouvons, par la parole de Dieu, voir, nous pouvons comprendre et saisir et discerner ce qui fait que des chrétiens tombent, ce qui fait qu'ils connaissent des moments de dévastation, qu'ils se font du mal et font du mal aux gens autour d'eux. Et c'est un message extrêmement important, c'est un message, c'est une question de vie ou de mort. Savoir comment se protéger des pièges. Savoir comment éviter l'échec et comment vaincre l'échec et comment traverser l'échec et comment transformer l'échec en victoire pour Dieu est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. C'est la différence entre une vie de regret et une vie de résurrection. La différence pour certains entre divorce et la découverte du pardon en Dieu. C'est la différence entre faillite et faveur. La différence entre abandonner et accomplir la volonté de Dieu. La différence entre une vie d'amertume et une vie d'apaisement de mes douleurs passées. C'est la différence entre rupture et réconciliation, entre dépression et délivrance. C'est la différence entre demeurer dans la défaite ou découvrir sa destinée, se résigner à son sort ou recevoir le surnaturel de Dieu. S'il y a une pensée que je veux qui pénètre vos cœurs ce matin, c'est qu'avec Dieu, les échecs ne sont jamais finaux. Un échec n'est jamais final. Nous servons le Dieu qui veut même toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Si vous marchez avec le Seigneur, vous allez découvrir que le Seigneur utilise les échecs dans nos vies, utilise les épreuves, que le Seigneur peut même les transformer. Ce que l'ennemi avait voulu pour nous faire du mal, Dieu est capable de le changer pour sa gloire. Dites amen ce matin. Cette dimension, il y a plusieurs réactions qu'on peut avoir face à des échecs dans nos vies. J'appelle ça l'ABC des réactions face à l'échec. Il y a plusieurs réactions qu'on peut avoir face à l'échec dans nos vies. Et certaines réactions le multiplient, l'amplifient et nous paralysent. Et il y a plusieurs réactions, l'ABC des réactions face à l'échec. L'apitoiement. Lorsque j'ai subi un échec, de m'apitoyer sur moi-même, d'avoir, en anglais, on dit « a pity party ». C'est terrible, c'est terrible ce qui m'arrive, et de se vautrer dedans. Et habituellement, l'apitoiement, faire pitié, l'apitoiement conduit à l'amertume, à l'apathie et à l'abandon. Tu peux choisir de t'apitoyer. D'autres choisissent le blâme. L'ABC, le A, l'apitoiement, le B, le blâme. Il y en a qui choisissent le blâme. Lorsqu'ils commettent un échec, une société entière, que lorsqu'ils subissent un échec, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est la faute, l'échec de mon mariage, c'est la faute de elle, la faute de lui, la faute de mon mari, la faute de ma femme, la faute mon employeur, la faute de mon travail, la faute de mes parents, la faute de mon père, la faute de ma mère, la faute de mon enfance, la faute de mon église, la faute de mon pasteur. Il y a toujours une dimension de possible de réaction face à l'échec, de blâme sur les autres. Et habituellement, et presque et toujours, ceux qui entrent dans le blâme lors de leurs échecs n'en apprennent jamais rien et répètent leurs échecs. Toujours en train de blâmer d'autres. Le A, le B, l'ABC de réaction face à l'échec. Apitoiement, blâme, la crainte. Plusieurs qui, après avoir subi un échec, se recroquevillent sur eux-mêmes et ne veulent plus rien essayer. Une vie de peur, une vie de crainte. Une vie où j'ai peur de tout, une vie où je joue safe. une vie où j'essaie de juste survivre parce que j'ai subi un échec et j'ai été cassé, j'ai été brisé, un échec relationnel, un échec ministériel, un échec professionnel, un échec émotionnel, un échec dans quelque domaine que ce soit, j'ai subi un échec. Et c'est un paradoxe, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la peur en ce moment, dans la crainte, l'apitoiement, le blâme, la crainte parce qu'ils sont dans l'échec. Alors que le royaume de Dieu est dans le monde séculier et dans le royaume de Dieu, ceux qui accomplissent les plus grandes choses sont la plupart du temps des gens qui ont connu de grands échecs aussi. L'apôtre Pierre, ce qui est magnifique en lui, c'est que c'est l'apôtre des plus grands accomplissements. Mais c'est aussi l'apôtre des échecs les plus spectaculaires. Si vous avez déjà connu des échecs, vous êtes un bon candidat pour vivre des grandes choses en Dieu. Quelqu'un devrait dire amen. Et dites à la personne à côté de vous, ça fait de moi un champion de l'exploit. Dites ça à la personne à côté de vous. Parce que, quelles sont nos réactions face à l'échec? Apitoiement, blâme, crainte, la peur. Je dirais de cette façon. La crainte, le déni d'autres personnes qui... face à l'échec, vont simplement nier leurs échecs. Ne jamais admettre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un échec comme père, un échec dans le mariage, un échec dans leur travail, un échec dans la façon dont ils ont conduit leurs affaires, sont arrivés à une faillite. Mais si tu es dans le déni, lorsque tu fais face à un échec, tu vas répéter les mêmes erreurs. Après 25 ans de ministère, c'est quelque chose qui est assez saisissant de voir des chrétiens qui, sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, le cycle est toujours le même de répétition parce que le déni fait qu'ils ne se regardent pas eux-mêmes et ils n'apprennent rien de leurs échecs. La peur, la crainte, le déni. Je dirais de cette façon, pour ceux qui sont ici, qui sont dans la crainte, ceux qui sont ici, qui ont vécu un échec, puis il y a une crainte maintenant. Lorsque tu as un genou par terre, tu as un genou, tu as été frappé, tu as subi un échec, tu es tombé en bas de la poutre, tu as subi un échec. Lorsque tu as un genou par terre, mets ton autre genou par terre. Lorsque tu as un genou par terre, mets l'autre par terre, dis « Seigneur, je te donne ma vie. » Et après ça, relève-toi, époussette-toi et dis-toi « Seigneur, tu es capable de transformer mon échec en un apprentissage. » Quelqu'un devrait dire « Amen. » Un genou par terre, mets l'autre genou par terre et par la suite, relève-toi. Parce qu'il y a une réaction souvent peu connue à l'échec, qui est celle des Écritures, qui est un secret du royaume de Dieu que Pierre avait compris, c'est qu'il y a un apitoiement, le blâme, la crainte, le déni, mais que nous devons avoir une réaction où nous comprenons que l'échec peut être utilisé de Dieu pour l'élévation et pour l'épanouissement. Qu'en fait, à travers nos échecs, Dieu agit et nous amène encore plus proche de qui il est, nous transforme à son image, qu'il est impossible de vivre des exploits sans échec. Personne n'a dit amen, mais je continue un petit bout de seul quand même parce que c'est vraiment bon ce matin. Alors, tout le monde veut les exploits, mais personne veut les échecs pour y arriver. Tout le monde veut... l'accomplissement, mais personne ne veut l'apprentissage. Tout le monde veut la puissance, mais personne ne veut le processus. Et là, j'aimerais vous dire ce matin qu'il y a, l'apôtre Pierre avait saisi l'homme des plus grands exploits, qui avait été l'homme des plus grands échecs, avait saisi qu'à travers les épreuves, à travers les échecs, c'est là que Dieu fait une œuvre. Il l'a dit en 1 Pierre, chapitre 1, lorsqu'il a dit, « Vous qui avez un héritage qui ne peut pas se flétrir, vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu et par la foi pour la plénitude du salut, prêts à être relevés dans les derniers temps, quoi que vous soyez pour un peu de temps, puisqu'il le faut. » Voulez-vous dire à voix haute, puisqu'il le faut? Puisqu'il le faut. Affligé par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée bien plus précieuse que l'or périssable, cependant purifiée par le feu, devienne un sujet de louange, de gloire et d'honneur. Ce verset-là, il est extraordinaire. L'apôtre Pierre dit, moi j'ai eu des épreuves et moi j'ai subi des échecs. Mais à travers ces échecs, il y a une œuvre de Dieu qui a purifié, qui a fortifié ma foi, qui m'a donné une plénitude de salut. L'apôtre Pierre utilise différents mots qui sont magnifiques. Il dit « Votre foi est éprouvée à travers divers échecs ou diverses épreuves. » Le mot « divers », polykilos dans le grec, veut littéralement dire de différentes couleurs. Des épreuves de toutes les couleurs. Vous connaissez l'expression francophone « j'en ai vu de toutes les couleurs ». Lui, ma mère disait toujours ça de moi. Lui, il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Elle disait toujours ça de moi. C'est magnifique. Il dit, dans la vie, il va y avoir des épreuves diverses, polykoulos. Il va y avoir des épreuves de toutes les couleurs. Mais dans 1 Pierre, chapitre 4, il dit, « Afin que vous puissiez découvrir diverses grâces, même mot, de toutes les couleurs. » Et le Seigneur dit littéralement, « J'ai une grâce pour toi pour toutes les couleurs que tu vas traverser. Quelle que soit l'épreuve, il y a une grâce qui est suffisante. Quelle que soit tu passes toutes les couleurs, j'ai une grâce de toutes les couleurs. Quelle que soit ce que tu vas traverser dans tes épreuves, diverses épreuves, il n'y a pas une épreuve qui est au-delà de la grâce que moi j'ai pour toi. Quelqu'un devrait dire oui. L'apôtre Pierre avait vu cette image qui est assez saisissante. Il dit, votre foi va être éprouvée. Elle va être éprouvée comme l'or. Il dit, elle est plus précieuse, votre foi est plus précieuse que l'or périssable, mais elle sera purifiée par le feu. Et c'est une image, l'apôtre Pierre avait vu, c'est une image de l'affineur qui met ce qui semble de l'or pur dans un creuset. Ce bracelet, ce pendentif en est un qui est en or 14 carats. Si on le regarde de proche, c'est vraiment brillant. Et si on regarde ce bracelet, on pourrait le voir comme étant en or, de l'or pur. Si tu le vois sous une lumière, si tu le vois briller, scintiller, et c'est un bracelet, j'ai demandé à mon assistante Judy de me le prêter. C'est un bracelet en or, 14 carats, qui est très précieux pour elle. Est-ce que c'est la fête de quelqu'un aujourd'hui? On va aller... Non. Je vais continuer à voir mon assistante Judy, alors, on ne fera pas ça. Mais le raffineur, l'affineur savait, voici ce qu'il faisait. L'affineur prenait ce qui semblait être pur et brillant, et il le mettait dans le creuset, et il mettait la chaleur. Le creuset était une espèce de fournaise. Il mettait la chaleur. Et alors qu'il augmentait et augmentait la chaleur, ce qui n'était que brillance, il y avait plein d'impuretés qui montaient à la surface. Tu peux voir toutes sortes d'impuretés. Plus que la chaleur était forte, plus les impuretés, les résidus montaient à la surface. Et une fois qu'il regardait et qu'il voyait les impuretés qui montaient à la surface, il les enlevait. Il les enlevait et après, il augmentait la chaleur. Et alors qu'il augmentait la chaleur, il y avait de nouvelles impuretés qui montaient que tu ne pensais pas qu'ils étaient là. Et alors qu'il les enlevait, remontait la chaleur. Il y avait encore des impuretés qui montaient. Quelqu'un dirait, comment est-ce que le fondeur pouvait savoir, l'épureur pouvait savoir que l'or était maintenant pur? Il pouvait le savoir au moment où il regardait dans l'or liquide et il pouvait voir sa réflexion. Il pouvait se voir dans l'or. Et Dieu dit, je permets à des épreuves de venir sur votre vie. Puis parfois, il va y avoir des échecs. Et des personnes qui croient, et nous marchons avec une certaine mesure de foi. Mais lorsque l'épreuve vient, que la chaleur vient, c'est là qu'on voit ce que tu es vraiment. C'est là qu'on voit là, des impuretés qui montent à la surface. Et Dieu, par sa grâce, a ses yeux sur nous et il nous libère. Et par la suite, d'autres chaleurs, d'autres pressions, d'autres épreuves et parfois échecs et d'autres impuretés montent. Et Dieu qui t'a avec sa main qui nous libère jusqu'à ce que lorsqu'il regarde en nous, il se voit lui. Jusqu'à ce que la réflexion de qui Dieu est soit vue en nous. Jusqu'à ce que les gens autour de vous puissent voir Dieu à travers votre vie, vos réactions, vos motifs et vos épreuves, parce que le but de la vie chrétienne n'est pas de se servir de Dieu pour avancer le plus de bébelles possible sur cette terre. Le but de la vie chrétienne, c'est d'être transformé à son image et de le représenter pour que ce monde puisse voir la réflexion de Dieu en nous. Et ceux qui aiment cette vision disent amen ce matin. Alors, je veux regarder à trois pas très simples. Ils sont très simples, je ne vais pas les développer en profondeur, mais ils sont extrêmement pratiques. Il faut savoir, afin de vaincre la peur de l'échec, il faut connaître les raisons de l'échec spirituel. Il y a trois pièges, trois choses que Pierre a fait qui l'ont conduit à son échec spirituel. Dans les prochains messages, on va voir comment se relever. Mais il y a trois choses que Pierre a fait, que nous faisons 2000 ans plus tard encore aujourd'hui, qui nous conduisent, qui nous amènent, qui amènent à l'échec spirituel. Si vous pouvez les saisir ce matin, vous pouvez protéger votre vie et reprendre votre vie et votre destinée en Dieu. Il faut connaître la raison de l'échec spirituel si nous voulons vaincre la peur de l'échec spirituel. Trois choses que Pierre a faites. A, il s'est élevé et évalué comme étant au-dessus de son entourage. La première chose que l'apôtre Pierre a fait, qui est une tendance à travers les quatre évangiles, c'est que l'apôtre Pierre avait une vision qui était trop horizontale et pas assez verticale. Il était continuellement en fonction des personnes autour de lui. Et lorsqu'il recevait quelque chose de la part de Dieu, il y avait cette tendance encore plus à regarder aux personnes autour de lui plutôt qu'à garder ses yeux sur le Seigneur. Vous connaissez le texte qui va apparaître à l'écran où Jésus dira « Qui les hommes disent-ils que je suis? » Et différentes réponses sont données. Et l'apôtre Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, les versets vont apparaître à l'écran, et Jésus lui dit « Ce n'est pas la chair ce qui est arrivé de ça, Pierre, c'est mon esprit qui t'a révélé ça. » Et l'apôtre Pierre, à ce moment-là, a une portion qui est belle, qui est grande en Dieu. Mais immédiatement après, Jésus annonce le plan de son salut. Il dit, je vais venir, je vais mourir, je vais être crucifié pour par la suite être ressuscité. Et l'apôtre Pierre s'élève au-dessus de Jésus lui-même. L'apôtre Pierre a reçu tellement une grande révélation que maintenant, il va reprendre le Seigneur. L'apôtre Pierre, à qui Jésus avait dit, tu es Pierre et c'est mon Saint-Esprit qui t'a révélé cela. On regarde à la diapo 13. Maintenant, Jésus dit, je vais mourir, mais je vais être ressuscité le troisième jour. Verset 22, Pierre l'ayant pris à part, la diapo 13, se mit à le reprendre Jésus, et à dire, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant, l'apôtre Pierre, à partir du moment où il a reçu la grande révélation, est comme un ballon qui se gonfle. Je suis l'apôtre Pierre, j'ai la grande révélation. Et maintenant, arrière de moi, Satan, car tu mens, tu mets scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. L'apôtre Pierre, première étape de ceux qui vont subir un échec spirituel, ils pensent qu'ils sont au-delà, eux, de l'enseignement du Seigneur. Ils pensent que ce que Jésus dit, ils peuvent être une espèce d'exception, eux. Chrétiens de longue date qui commencent à ouvrir leur vie à des espèces de deal avec Dieu. Les choses fondamentales que le Seigneur enseigne, ils choisissent de les mettre. Moi, je suis au-dessus de ça. Ils commencent à se regarder comme étant au-dessus, même de ce que le Seigneur enseigne, ils se regardaient comme étant au-dessus des autres. L'apôtre Pierre avait cette tendance de continuellement penser qu'il y avait les autres et il y avait lui. Vous avez des passages savoureux dans Luc 12, le Seigneur enseigne une parabole importante et Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous que tu parles ou à tous que tu adresses cette parabole? C'est à nous ou c'est aux autres? Dites à la personne près de vous, c'est toujours à toi. Dites ça à la personne près de vous. Cette capacité de penser que ça c'est pour les autres. Les chrétiens qui viennent à l'église avec une pelle le dimanche. Alors ça, c'est bon pour elle. Ça, c'est bon pour mon mari. Oh, t'as dit ça? Hey, les coups de coude, pas de côté. C'est comme suivi. L'apôtre Pierre avait cette tendance à vivre sa vie avec des préoccupations qui sont horizontales plutôt qu'une audience de un. Parce que laissez-moi vous dire que ultimement, nous vivons tous notre vie devant un seul, devant une audience de une personne seulement. Nous vivons tous notre vie devant le Seigneur lui-même. Je veux vous dire amen? Alors il y a l'apôtre Pierre, c'est fascinant, toujours les yeux sur ce qui est à côté. L'un de vous me livrera, dit Jésus. Et un des disciples, celui que Jésus aimait, Jean, était couché tout près de Seigneur Jésus. Alors l'apôtre Pierre lui fit signe, demandit, c'était qui parle? Ça c'est Pierre, c'est qui? Ça c'est les chrétiens qui sont à l'église. C'est qui est tombé? C'est qui est dans le trouble? C'est qui a fait quoi? Si tu veux savoir les rumeurs de l'église, si tu veux savoir les potins de l'église, c'est elle que tu vas voir. C'est lui que tu vas voir. A toujours les yeux sur l'autre à côté. As-tu entendu parler? Ah, oh, c'est terrible, hein? Savais-tu qu'aussi, là, il en met plus? Mais je te dis ça pour que tu puisses prier pour lui. Lorsqu'un chrétien commence à vivre en fonction des autres autour de lui, je me le dirais de cette façon. Lorsque tu deviens obsédé par ce que les autres pensent de toi, et toi par les autres, c'est la façon la plus rapide de perdre de vue ce que Dieu pense de toi. Continuellement envers les autres, l'apôtre Pierre le dira même de cette façon. Il dira, Pierre prenant la parole, dit, la diapo 15, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Commence à se voir comme étant au-dessus des autres. Commence à se voir comme étant au-dessus des lois. Commence à se voir comme étant au-dessus des standards de Christ. Commence à se voir comme étant, ça c'est le chemin, que celui qui se tienne prenne garde de peur qu'il ne tombe. Que celui qui est orgueilleux prenne garde, car Dieu lui résistera, mais il fera grâce aux humbles. Le chemin de l'échec est lorsque tu penses que tu peux te permettre des choses que tu ne te permettais pas avant, et que tes yeux sont sur les gens. Le chemin de la protection de l'échec, c'est que mes yeux sont sur lui, et j'ai besoin de Dieu à chaque jour, et je ne regarde pas les personnes qui tombent autour de moi avec un regard comme si ça ne pouvait pas m'arriver. Je regarde avec humilité, et je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Quelqu'un devrait dire amen. L'apôtre Pierre, étape numéro 1, s'est élevé au-dessus des autres. Étape numéro 2, il s'est endormi et s'est élancé avec une épée. Pierre répondit, même si je dois mourir avec toi, la diapo 16, Matthieu 26, je ne te renierai pas. Mais là, Jésus prit Pierre avec lui, il lui dit, veillez et priez. Il prit les disciples et Pierre, et il lui dit, veillez, priez. Car c'est l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Veillez et priez avec moi. » Et sachant tout ce qui était devant lui arriver, Jésus s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils répondirent, Jésus de Nazareth. Et Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Et Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, s'élança et frappa le serviteur du souverain sacrificateur. Et lui coupa l'oreille droite. Le serviteur s'appelait Malchus. Et Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas de la coupe que le Père m'a donnée à boire? Et c'est un instant. Pierre s'est élevé, puis après ça, il s'est endormi. C'est comme ça qu'est arrivé à l'échec spirituel. S'est élevé, puis après ça, s'est endormi spirituellement. Venez à part, venez avec moi. Seigneur, même si toutes les autres meurent pour toi, pas moi. Meurs, même si toutes les autres te nient, moi, je vais mourir pour toi. Apôtre Pierre, par la suite, Jésus dit, viens maintenant, Pierre. Je sais que ton esprit est bien disposé, je sais que tu es sincère. Mais venez avec moi, on les amène à Gethsémané. Venez avec moi, il faut que vous priez maintenant. Parce que l'esprit est bien disposé, mais votre chair est faible. L'apôtre Pierre s'endort, Jésus vient le réveiller. S'endort, Jésus vient le réveiller. S'endort, Jésus vient le réveiller. Alors qu'il est endormi spirituellement, il va prendre une épée. Alors qu'il est endormi spirituellement, il va se retrouver avec, dans sa main, les choses qui sont dans sa main. Il y a des choses, premièrement, qui sont dans sa main qui ne devraient pas être là. Puis il va se retrouver à être contrôlé. C'est la chair qui va contrôler les choses qui sont dans sa main. La grande question, c'est qu'est-ce que Pierre faisait avec une épée? Apôtre du Seigneur, le royaume de Dieu qui s'en vient, 3 ans leur enseigner au royaume spirituel. Pierre dort. Et alors qu'il dort, on va regarder l'épée dans une seconde, ça va être la dernière pensée du message. Pierre dort. Et alors qu'il dort spirituellement, la chair prend le dessus. Et sans la prière, je réduis Dieu. Sans la prière, je réagis avec impulsion. Sans la prière, je suis incapable de révélation. Sans la prière, c'est ma chair, c'est mes émotions, c'est mes émotions, c'est moi. Sans la prière, c'est la colère au lieu du calme. Sans la prière, c'est la précipitation au lieu de la paix et de la direction de Dieu. Sans la prière, c'est les émotions. Sans la prière, c'est les décisions rapides. Sans la prière, c'est les emportements. Et l'apôtre Pierre sort. Quelle scène hallucinante lorsque on vient pour arrêter Jésus. C'est la succession. Jamais je ne te renierai. Viens prier avec moi. On le trouve endormi. On vient pour l'arrestation de Jésus. Et l'apôtre Pierre sort son épée. Vous connaissez l'histoire. Sort son épée, serviteur de Dieu. Il frappe un serviteur qui s'appelle Malchus et lui coupe l'oreille. Vous comprenez avec moi qu'il ne visait pas l'oreille. Il a juste manqué son coup. Il voulait avoir mal d'un bord puis chius de l'autre. Est-ce que vous me suivez? Là, Jésus lui dit, mais qu'est-ce que tu fais avec cette épée? Est-ce que tu veux avorter le plan de Dieu? Est-ce que tu penses que je ne ferai pas la volonté de mon Père? Est-ce que tu penses que ça va être avec l'épée de tes réactions que la volonté de Dieu? Suivez-moi bien. Sans la prière, c'est élevé, c'est endormi. Sans la prière, c'est la chair qui va mettre des choses dans ta main. Et sans la prière, tu vas perdre le contrôle de ce qui est dans ta main. Sans la prière, tu vas avoir une épée dans ta main. Vous dites, de quoi tu parles en 2009? Sans la prière, cet été, si tu te retires, et puis toute l'année, si tu te retires sans la prière cet été, des milliers de chrétiens vont se retrouver à des places qu'ils ne devraient pas se retrouver. Ils vont se retrouver à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Ils vont se retrouver dans des festivals d'un bord, dans des festivals de l'autre, avec à la main ce qui va les souiller, ce qui va ruiner leur témoignage, qui va pour la suite les rendre silencieux pour le reste de leur vie dans leur famille parce que tu as fait un fou de toi. Puis tu as été comme eux. Puis ce qui va te rendre incapable de communiquer un témoignage à tes enfants parce que tu es pareil. Et qui va te faire que tu vas te réveiller le lendemain matin avec un échec spirituel. Sans la prière, Pierre s'est retrouvé avec la chair à la main, incapable de la contrôler. Si je pouvais, je traverserais les allées, je te regarderais dans les yeux, je te dirais, n'oublie pas, Jésus est arrivé face à face avec Pierre. Jésus est arrivé face à face avec Pierre et à chaque jour de cet été, tu arrives face à face avec lui. Et j'aimerais dire à chaque chrétien, par la grâce de Dieu, ne fais pas honte à ton témoignage. Ne ruine pas le nom de Dieu cet été, mais marche avec lui et souviens-toi de son appel sur ta vie et que ceux qui le reçoivent disent Amen et applaudissent avec moi l'appel de Dieu qui est sur nous. Sans la prière, c'est la chair qui dicte l'œuvre de tes mains. Sans la prière, c'est la chair qui dicte où tu vas sur Internet. Qu'est-ce que tu regardes lorsque personne ne te regarde? Sur quel site tu vas? Quelle souillure tu permets d'entrer dans ton esprit? Quel site dégoûtant tu te permets d'aller pour par la suite venir à l'église les yeux penchés, pour par la suite tranquillement arrêter de venir sans la prière. Sans la prière, c'est la chair qui détermine où tu dépenses ton argent, comment tu le fais, si tu vas être honnête, si tu vas travailler en dessous de la table, qu'est-ce que tu vas faire, quelle sorte de personne tu vas être. Sans la prière, tu vas te retrouver une épée dans ta main. Pierre s'est élevé au-dessus des autres. Et par la suite, il s'est endormi. Sans la prière, il était réduit. Sans la prière, il était seulement en réaction. Et sans la prière, il était complètement incapable de comprendre la révélation de Dieu. J'ai vu quelque chose dans ce texte, alors que j'arrive à la fin du message ce matin, j'ai vu quelque chose dans le texte que je n'avais pas vu comme cela auparavant. Toute la même séquence du texte dans l'Évangile de Luc, si on regarde la diapo 20, vous savez que Jésus les enseigne et il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, verset 35 de l'Évangile de Luc, chapitre 22, pardon, Luc 22, 35, il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose et répondirent de rien? » Il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac la prenne également, que celui qui n'a pas d'épée vende, écoutez bien, vende son vêtement et achète une épée. » Regardez un instant. Jésus ne parle pas littéralement. Jésus est en train de leur dire, c'est le royaume de Dieu. Maintenant, les temps de paix, les temps sont... Vous avez été avec moi 3 ans, mais maintenant, vous allez aller au combat spirituel. C'est pour ça qu'il continue en disant, il faut que cette parole s'accomplisse. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Il leur donne la révélation de 3 ans d'enseignement. C'est comme lorsque Jésus a dit, si ton œil t'offense, arrache-le. Il ne s'attendait pas à ce qu'un disciple se mette un épée dans l'œil. Est-ce que vous me suivez? Mais ils sont incapables de révélation. Ils sont incapables de révélation parce que le Seigneur, alors que Jésus a dit, le temps de paix sont terminés, maintenant vous allez entrer dans un combat. C'était bien plus dans l'esprit d'Éphésiens 6. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Prenez maintenant l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Mais les disciples qui ne comprennent rien vont chercher 2 épées. Verset 38 de Luc 22. Et ils leur dirent, Seigneur, écoute Seigneur, on vient de trouver 2 épées. Et Jésus leur dit, « Cela suffit. » Suivez-moi bien. Sans relation, la communion avec Dieu, si tu t'élèves et que tu t'endors spirituellement, sans la prière, tu es incapable de révélation. Tu vas te promener avec tes épées de la chair au lieu d'avoir la parole de Dieu. Tu vas dire, « Seigneur, j'ai mes propres forces, j'ai avec mes 2 épées. » L'apôtre Pierre était dans cet état dangereux, où il s'est élevé au-dessus des autres, au-dessus des lois, où il s'est endormi, et où par la suite, il s'est mis à suivre, il s'est éloigné, le Seigneur de loin, pendant que les musiciens s'approchent. Il s'est mis à suivre le Seigneur de loin. La troisième partie, le texte nous dit, il s'est éloigné, il suivait de loin, il se tenait maintenant à l'extérieur. Il a subi un terrible échec. Matthieu 26, ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent, et Pierre le suivait de loin. Or, Pierre et un autre disciple suivaient Jésus de loin. Pierre se tenait dehors, près de la porte. Est-ce que tu suis Jésus de loin ce matin? Est-ce que tu es près de la porte? Tu es encore à l'intérieur, mais tu es près de la porte. Suivre le Seigneur de loin. Tu commences à t'éloigner. Tu commences à te relâcher face à sa maison, à la maison de Dieu. Toutes les raisons sont bonnes pour ne pas être à l'église. Suivre le Seigneur de loin. Il y a un refroidissement dans ta communion avec lui. Suivre le Seigneur de loin, il y a souvent un esprit de reproche qui commence à venir. Tu te rapproches de ceux qui ne connaissent pas Dieu, passes de plus en plus de temps avec eux, avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui méprisent le Seigneur, qui se moquent de lui, dont les valeurs sont complètement contraires. Tu prends un recul face à tes valeurs. Tu commences à te refroidir face au Seigneur. Tu commences souvent à avoir cet élément de refroidissement qui est souvent accompagné de reproches. Alors qu'avant, tu voyais la bénédiction, alors qu'avant, tu appréciais, alors qu'avant, tu te donnais, maintenant, tu te retires de plus en plus. Tu suis le Seigneur de loin. Alors qu'il s'est élevé, alors qu'il s'est endormi, et alors qu'il s'est éloigné. Il a subi un échec hallucinant. La parole de Dieu nous dit que l'apôtre, le Seigneur Jésus a été mis sous arrestation. Et la diapo 24, Pierre est assis là, il est en train de s'échauffer les mains, puis un homme qui dit, « Toi, tu connaissais Jésus, tu étais avec lui. Homme, je ne sais pas ce que tu dis, mais... » Et au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Et le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole avant que la coque chante, tu me renieras trois fois. Il sortit et pleura amèrement. Et à chaque fois qu'il y pensait, il pleurait. Ce regard-là, il est hallucinant. Ce regard-là où les yeux de Pierre ont croisé ceux du Seigneur après qu'il l'a renié, et que l'apôtre Pierre est comme frappé en plein visage, comme se met à pleurer, la Bible nous dit qu'à chaque fois qu'il y pensait, il y pleurait. Il s'est élevé, il s'est endormi, et par la suite, il s'est éloigné, a commencé à suivre de loin. Il a subi un échec, s'est mis à pleurer amèrement. Et tout en moi dit ceci, ma reconnaissance, mon action de grâce, mon extraordinaire joie et mon espoir est que le verset et le récit ne s'arrêtent pas là. Parce que lorsque le Seigneur Jésus ressuscite, l'ange dira, allez l'annoncer aux disciples et allez l'annoncer à Pierre. Combien sont reconnaissants que le Seigneur appelle notre nom même lorsqu'on a connu un échec? Est-ce que quelqu'un pourrait dire amen? Même quand j'ai connu un échec, il appelle mon nom. Il appelle mon nom. L'apôtre Pierre avait dit, moi je retourne à mes bateaux, je retourne à la pêche. Et toute la nuit, il avait travaillé, c'était épuisé, il avait fini les mains vides. Puis des milliers de rétrogrades qui, loin de Dieu, leur vie est vide, s'épuisent avec les mains vides. Sur le bord, le Seigneur Jésus l'appelle et les disciples, la dernière diapo, les disciples lui disent, à Pierre, c'est le Seigneur. Et l'apôtre Pierre est sur son bateau et la Bible nous dit, il prend son vêtement car il était nu. Puis se jette littéralement à l'eau, puis nage jusqu'au bord. Ça prend beaucoup d'humilité pour reconnaître que mes mains sont vides sans lui, que je suis nu sans lui, et l'humilité de revenir à lui parce qu'il appelle mon nom. Il appelle mon nom. Dans la série de messages sur les noms de Dieu, nous allons regarder ensemble sur comment revenir et que Dieu le refuge est notre prochain message. Mais ce matin, je vais vous demander de pencher la tête pendant un moment parce qu'il y a, une action de l'Esprit, il y a un appel de l'Esprit qui vous interpelle ce matin. Et je veux faire un appel très particulier. Un appel très particulier ce matin. Je demande maintenant à tous ceux qui sont dans le cœur pour le Seigneur de lever vos cœurs vers lui en prière, de commencer à parler à Dieu en ces moments. Je te prie, Seigneur, que l'onction puisse se répandre partout dans cette salle maintenant. Des flammes de feu qui se posent sur chaque personne. Je vais faire un appel ce matin. Si vous êtes ici, vous dites, Seigneur, Seigneur Jésus, je ne veux pas m'élever au-dessus des autres. Je refuse de m'élever au-dessus des autres et de vivre ma vie avec ce que les autres pensent et moi ce que je pense d'eux. Mes yeux ont peut-être trop été sur les autres. Mais ce matin, je veux mettre mes yeux sur toi. Je refuse de m'élever au-dessus des autres, mon Dieu. Je me suis endormi peut-être. Spirituellement, je me suis endormi. Puis c'est vrai que c'est la chair, c'est l'épée qui est dans ma main. C'est la chair qui est dans ma main. Je perds contrôle parce que la chair m'est dans ma main. Mais ce matin, Seigneur Dieu, je veux revenir. Je veux venir à toi. Je ne veux pas scraper ton nom et mon témoignage pendant cet été. Si vous êtes ici ce matin et vous dites, Seigneur, c'est vrai que je te suivais de loin. Je commençais à suivre de l'extérieur. Commencez à suivre de loin. Ce matin, je veux revenir parce que tu appelles mon nom. Si vous êtes ici ce matin, j'ai un appel particulier. Si vous dites, c'est pas tout le monde peut-être qui le veut, qui est prêt à ça, mais je veux que ma foi soit purifiée. Je veux que ma foi soit comme de l'or. Je veux que Dieu puisse être reflété en moi. J'accepte cet appel-là et j'accepte les épreuves de la vie. Et je veux qu'à travers chaque épreuve, Dieu me transforme. Dieu me purifie. Je veux qu'à travers toutes les épreuves, le Seigneur me rapproche de lui. Alors chaque échec deviendra un moment de Dieu pour me transformer. Un moment de Dieu pour me rapprocher. Un moment de Dieu pour me purifier. Un moment de Dieu pour me façonner. Et faire de moi l'homme et la femme qu'il veut que je sois. Je fais un appel très spécial pour vous ce matin. Si vous êtes ici dans la maison du Seigneur et vous dites, j'ai connu des échecs. J'ai connu des échecs. Mais ce matin, j'entends sa voix. Et je veux répondre à sa voix. Moi aussi, je me jette en bas de la barque. Moi aussi, je nage jusqu'à lui. Moi aussi, je me jette dans ses bras. J'ai connu des échecs, mais je veux le suivre de proche. Je veux garder mes yeux sur lui.
je veux être transformé et que ma foi devienne un or pur devant lui. J'aimerais vous inviter à vous lever dans sa présence et à dire, Seigneur, tu es digne et je veux t'appartenir ainsi. On peut se lever ensemble et dire, Seigneur, je veux te voir transformer les échecs dans ma vie. Je veux te voir, Seigneur, je veux te voir faire ton œuvre surnaturelle en moi. Je veux te voir protéger ton appel en moi. Pendant que l'émission continue à jouer doucement le refrain « Digne est l'agneau », juste avant même qu'on le chante, j'aimerais vous commencer à parler à Dieu et dire « Seigneur, je veux revenir entièrement. Je ne veux pas relâcher mes standards pendant l'été. Je ne veux pas me penser au-dessus de tes lois et au-dessus de tes avertissements et au-dessus de ta parole. Je ne veux pas avoir mes yeux sur les gens. Je ne veux pas avoir mes yeux sur les autres. Je veux avoir mes yeux sur toi. Je ne veux pas m'élever et penser que je suis au-dessus de qui que ce soit ou surtout pas au-dessus de ta parole et de tes commandements. Seigneur, mon Dieu, je veux venir. » Me rapprocher, je veux pas te suivre de loin. Seigneur, mon Dieu, je veux que tu viennes faire ton œuvre de foi en moi. Je veux, Seigneur, que même si c'est l'épreuve et la chaleur qui fait monter les impuretés, Seigneur, je veux que les gens puissent voir ta réflexion en moi. Je veux t'appartenir parce que tu es digne. Tu es digne, tu es l'agneau. Et pendant un instant, est-ce que vous pouvez lever vos voix avec moi? Oh, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau ensemble. Chantons-le. Oh, digne est l'agneau.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.